Montpellier Agglo, le magazine d'information de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Bienvenue dans la version sonore de votre magazine Montpellier Agglomération numéro 25 du mois de septembre 2014. Un numéro accompagné de votre supplément guide pratique de l'agglo à vos services.
En photo sur cette une, des jeunes gens sautant de joie pour illustrer notre dossier « Transport, tarifs en baisse ». Au sommaire de ce numéro 25, les rubriques Portfolio, L'Agglo c'est nous et Décision d'Agglo. L'édito de Philippe Sorel, président de la communauté d'agglomération de Montpellier, maire de Montpellier.
L'Agglo à chaud, coup d'envoi de l'Altrad Stadium, TAM, le ticket à 1 euro, c'est parti. Guide des vins 2014-2015, Décision d'Agglo, Métropole, la voie est tracée.
Portfolio, mon agglo en photo, un été dans l'agglo. L'agglo c'est nous, vendange précoce au cellier du Val des Pins. Vendargue, le cheval à la fête. Latte, la belle saison du théâtre Jacques Coeur. Des trésors aux journées du patrimoine.
Attractive agglo, la folie des food trucks. L'agglo demain, un réseau d'assainissement plus moderne. Figure d'agglo, Johanna Harel, rêve de victoire. D'agglo en agglo, le cirque de Navacelles en pays viganais. Plaisir d'agglo, tribune politique. L'édito de Philippe Sorel, président de la communauté d'agglomération de Montpellier, maire de la ville de Montpellier.
Déjà un semestre à vos côtés. En 6 mois, nous avons lancé de nombreux chantiers et donné une nouvelle impulsion à l'agglomération. Stabilisation des impôts, passage en régie de l'eau, bouclage de la ligne 4, baisse des tarifs des tramways et des bus, réduction des dépenses ou moratoire sur les projets non financés comme celui de la ligne 5, lutte contre les incivilités et la fraude sur le réseau TAM. La liste de nos réalisations est longue. Elles vont toutes dans le même sens, celui que je me suis fixé et que se doit de suivre tout président d'intercommunalité, l'amélioration du service public tout en préservant votre pouvoir d'achat. Et nous avons tracé la voie vers la métropole. En 6 mois, 8 conseils d'agglomération se sont succédés et des dizaines de réunions avec les vice-présidents et les maires des 31 communes pour décider ensemble du quotidien et de l'avenir de notre territoire. De concert, nous avons tracé une nouvelle voie pour notre communauté d'agglomération, celle de la métropole. Le 17 juillet, le conseil communautaire a voté largement en sa faveur et les conseils municipaux se prononceront d'ici le 18 octobre pour mettre en place la métropole à partir du 1er janvier 2015. La métropole qui se dessine, c'est une coopérative de services pour les communes, un établissement public de coopération intercommunale au mode de gouvernance partagée. Cette évolution est une question de survie sur la nouvelle carte de France. Nous devons figurer dans le top 14 des métropoles et voir plus loin. L'enjeu est de taille internationale. La métropole, ce n'est pas seulement un changement de statut, c'est aussi un véritable projet d'aménagement du territoire et de développement économique que je veux mener en partenariat avec les intercommunalités voisines. Je suis allé à la rencontre de la plupart des présidents des intercommunalités voisines. J'ai longuement discuté avec eux en toute transparence. Tous sont conscients des enjeux. Ils savent parfaitement qu'il faut demain aller au-delà de nos propres territoires et former un pôle métropolitain. Il est important de pouvoir s'affranchir des limites départementales et géographiques pour plus de cohérence et d'efficacité dans nos actions. Nous travaillons à cette union. Sur toutes ces questions, je souhaite aller vite. La victoire gît dans le mouvement, comme me le répétait souvent Georges Frêche.
Et puis un hommage à Christian Bourquin, qui était président de la région Languedoc-Roussillon, sénateur des Pyrénées-Orientales et qui est décédé le 26 août dernier. Élu depuis 1994 dans les Pyrénées-Orientales, puis à la région, il était un homme d'engagement et un militant. Nous nous sommes toujours parlé avec franchise. Je tiens à saluer son courage et sa dignité face à la maladie qui l'a finalement emporté. Au nom de l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération de Montpellier, j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
La rubrique L'Agglo à chaud de votre magazine avec tout d'abord le coup d'envoi de l'Altrad Stadium. Vendredi 5 septembre, à l'occasion du match de top 14 contre Castres, Philippe Sorel, président de Montpellier Agglomération, et Moed Altrad, président de Montpellier Héros Rugby, inaugureront l'Altrad Stadium, nouveau nom du stade d'honneur du complexe Yves du Manoir. Réalisé en 2007 par Montpellier Agglomération, l'antre du club de rugby montpelliérain porte désormais le nom du groupe Altrad, numéro 1 européen du matériel pour le bâtiment. Un contrat de naming d'une durée de 3 ans qui a été votée en conseil d'agglomération le 31 juillet dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le reste du complexe sportif, qui comprend 3 terrains annexes dont le stade Éric Béchu, continue de porter le nom d'Yves du Manoir.
La piscine Amphitrite fête ses 10 ans, inaugurée le 4 juin 2004. Amphitrite à Saint-Jean-de-Védas, qui fait partie du réseau des 13 piscines de l'agglomération, célèbre ses 10 ans samedi 13 septembre. Jardin aquatique, natation libre, aquajogging et aquagym géant, initiation aux gestes qui sauvent. De nombreuses animations gratuites pour toutes les familles seront proposées de 9h à 17h30. L'entrée, bien sûr, sera libre.
La ligne 4 du tram, les futures stations baptisées. Trois nouvelles stations seront créées sur les 1 km 200 de voies qui boucleront la ligne 4 de tramway. Albert Ier Cathédrale, boulevard Henri IV, Pérou Arc de Triomphe, boulevard Vialeton et Saint-Guilhem-Courreau, boulevard du Jeu de Paume. Pour améliorer la lisibilité du réseau, l'actuelle station Albert Ier de la ligne 1 sera quant à elle renommée Albert Ier Saint-Charles. Les travaux sont en cours. Jusqu'à fin septembre, les déplacements des réseaux ont lieu du boulevard du Jeu de Paume au boulevard Henri IV et des fouilles archéologiques préventives place Albert Ier. Au premier semestre 2016, cette ligne 4 d'une longueur totale de 9 km 200 desservira 19 stations.
Et puis bonne nouvelle, le tramway et le bus, c'est moins cher à la rentrée. Le carnet de 10 voyages à 10 euros, moins 20% sur les abonnements jeunes et étudiants. De nouvelles offres à découvrir dans les nombreux espaces mobilité ouverts dans l'agglomération.
Philippe Sorel, président de Montpellier Agglomération, l'avait promis et annoncé avant l'été. Aujourd'hui, le tram à 1 euro est mis en place. À 1 euro l'unité, en carnet de 10 trajets, le ticket TAM est le moins cher de France avec celui de Nice, explique Abdi El Kandoussi, président de TAM. Nous avons fait le choix de baisser les tarifs des carnets, mais aussi des abonnements jeunes et étudiants qui passent de 245 à 196 euros, soit moins 20%, pour avant tout fidéliser les usagers des transports en commun et préserver le pouvoir d'achat des habitants de l'agglomération. Présenté dès le début de l'été dans le guide du voyageur TAM envoyé au domicile des habitants de l'agglomération, les nouvelles offres tarifaires permettent à tous de faire des économies sur leurs titres de transport. Le tarif moyen du déplacement sur le réseau TAM est ainsi passé de 0,79 à 0,69 euros, soit une baisse de 11,7%. Des réductions qui ont un coût. Pour Montpellier Agglomération, 6 600 000 euros seront versés à TAM chaque année. Et pour profiter de ces nouveaux tarifs et faciliter les démarches de la rentrée scolaire, un dispositif spécifique d'accueil des usagers TAM a été mis en place. Jusqu'au 3 octobre, les trois espaces mobilité des rues Jules Ferry, Maglone et du parking tramway Mausson bénéficient d'horaires étendus et 4 espaces temporaires ont été créés dans les parkings tramway Occitanie, Sabine, Sablassou et Odysseum. Du 16 au 22 septembre, une offre exceptionnelle est également proposée dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, un forfait 7 jours multimodal au tarif de 10 euros.
Sécurité, des mesures de lutte contre les incivilités et la fraude. Cette politique tarifaire de rentrée s'accompagne d'une lutte contre la fraude qui atteint aujourd'hui un taux de près de 20% par an et représente une perte de recettes estimée entre 3 et 4 millions d'euros. Pour que tous les usagers utilisent les bus et les tramways au quotidien en toute légalité et sécurité, Montpellier Agglomération et TAM renforcent la présence humaine sur le réseau. 30 agents supplémentaires, dont 14 emplois d'avenir, seront recrutés et la présence des forces de l'ordre sera renforcée, notamment en soirée. À partir de 18h. 40 caméras de vidéosurveillance seront également ajoutées au dispositif de lutte contre le vandalisme.
La French Tech, Montpellier est en bonne position pour figurer parmi les premières métropoles qui devraient être choisies à l'automne pour représenter le label French Tech et ainsi faire partie de l'équipe de France du numérique. Après la visite d'Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, le 4 juillet dernier, une photo illustre d'ailleurs cet article, suivie de celle d'une mission technique ministérielle le 16 juillet, le dossier suit son cours en partenariat avec le secrétariat d'État. La candidature au label French Tech, porteur de visibilité et de financement pour les entreprises montpelliéraines coordonnées par Montpellier Agglomération et portées par de nombreux entrepreneurs du numérique dont le dynamisme a beaucoup impressionné les représentants du gouvernement Valls. Le numérique est avec la santé et le tourisme l'un des trois axes prioritaires de développement économique fixés par le président de Montpellier Agglomération, Philippe Sorel, pour les années à venir.
Le Louvre au musée Fabre. L'an dernier, 4800 personnes ont assisté au cycle de cours de l'école du Louvre donné au musée Fabre. Cet établissement d'enseignement supérieur propose à partir de mardi 7 octobre un nouveau programme de 6 séances d'1h30 chacune sur le thème des arts décoratifs et la vie élégante au 19e siècle qui permettra au public de mieux appréhender les collections permanentes et les expositions temporaires du musée de Montpellier Agglomération. Plus d'informations sur museefabre.com.
4 nouvelles rames sur les rails. Dans quelques mois, ces 4 nouvelles rames multilignes circuleront sur les 60 km du réseau du tramway. Ces rames Alstom de couleur noire renforcent ainsi le parc des 4 lignes de tramway de l'agglomération. Avec une fréquentation croissante qui atteint aujourd'hui plus de 300 000 voyages par jour, cette acquisition est devenue nécessaire pour assurer la continuité des services. Elle représente un investissement de 12 500 000 euros financé en totalité par Montpellier Agglomération. Plus d'infos sur www.tam-way.com.
51, c'est le nombre de viticulteurs à découvrir dans le nouveau guide des vins de Montpellier Agglomération. Distribué sur les sites touristiques, vous y retrouverez toutes les infos sur l'œnotourisme dans les 31 communes du territoire. En téléchargeant gratuitement l'application mobile, vous pourrez également donner votre avis sur les sites visités, géolocaliser les domaines ou encore profiter des sites remarquables à proximité.
Jeudi 18 septembre, Montpellier Agglomération et Emmaüs organisent une nouvelle collecte solidaire en porte-à-porte à Bayargues et Vendargues et au point d'accueil parking Fuxa, avenue de la gare à Vendargues, de 8h30 à 16h30. Téléphonie, mobilier, petits appareils électriques, matériel informatique, vêtements, bibelots, jetez utile et donnez une seconde vie à vos objets.
Les tweets aglo, le décathlonien Kevin Mayer, qui s'entraîne au Pôle Espoir de Montpellier, a décroché la médaille d'argent au championnat d'Europe d'athlétisme, c'était le 13 août à Zurich.
Le végétal et les jardins font leur festival Sève, scène d'expression végétale éphémère à Gramont, les 26, 27 et 28 septembre. Plus d'infos sur Sève, S-E-V-E, jardin au pluriel, .org.
Sept Montpellierennes, championnes de France, ont décroché avec les Bleus la troisième place à la Coupe du monde de rugby féminin. C'était le 17 août.
L'exposition Tramway, une école française au lieu du design à Paris qui met à l'honneur les lignes de l'agglomération, est prolongée jusqu'au 18 octobre.
Après avoir été sélectionné pour le Mondial 2017 de handball, Montpellier accueillera l'Euro de basket masculin 2015 si la France est choisie par la FIBA.
Le site internet d'avis de voyageurs TripAdvisor a décerné un certificat d'excellence au musée Fabre et a classé Mare Nostrum parmi les 20 premiers aquariums européens.
La salle du conseil d'agglomération est désormais équipée du système Toivox de l'entreprise ESII, basée à Laverune, pour améliorer le confort des personnes malentendantes.
38% des Français trouvent que Montpellier est une ville où il fait bon travailler, selon un sondage Fink que pour l'Institut Great Place to Work, Montpellier est classée 3e ville française.
Une nomination. Depuis le 1er septembre, Jean-Pierre Rousseau est le nouveau directeur du Festival de Radio France et Montpellier-Languedoc-Roussillon. Il remplace Jean-Pierre Lepavec. Cet ancien directeur de France Musique est désormais en charge de cet événement culturel estival, soutenu par Montpellier Agglomération, qui a accueilli plus de 90 000 spectateurs du 13 au 26 juillet dernier.
Dans votre magazine, les pages décisions d'agglo avec le conseil d'agglo du jeudi 17 juillet 2014. Ce jeudi 17 juillet 2014 restera comme une date historique dans la vie déjà riche de la communauté d'agglomération de Montpellier. Lors d'un conseil communautaire extraordinaire, les élus ont en effet adopté à une large majorité, 77 voix pour sur 89 votants, le principe de la saisine des conseils municipaux en vue du passage en métropole. Le processus est désormais officiellement enclenché.
Le conseil de communauté extraordinaire de juillet est à marquer d'une pierre blanche. Pour notre intercommunalité née district, il y a tout juste un demi-siècle, les communautés d'agglomération depuis 2001, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre tant sur le plan sémantique que pour sa modernisation et ses compétences. Dans son propos liminaire, Philippe Sorel, le président de Montpellier Agglomération, a précisé les enjeux. Ce passage en métropole est une nécessité à plus d'un titre. Avec la réforme territoriale, seules les métropoles seront habilitées à recevoir les compétences déléguées des départements et des régions. Sur le plan politique, dans la perspective de former une future grande région avec Midi-Pyrénées, nous allons devoir montrer une force suffisante pour rivaliser d'égal à égal avec Toulouse. Mais il faut aussi voir au-delà et passer à une autre vision du monde qui fait qu'aujourd'hui, Montpellier a vocation à échanger avec Tokyo, Johannesburg ou Melbourne. Enfin, si nous restions communauté d'agglomération, la DGF, dotation globale de fonctionnement que nous verse l'État et qui est aujourd'hui de 60 euros par personne, serait réduite de 25%.
La parole est maintenant du côté des 31 communes de l'actuel périmètre intercommunal. Ce sont elles qui, au niveau de leur conseil municipal et d'ici la mi-octobre, ont à débattre et à se prononcer au sujet du passage en métropole à la date du 1er janvier 2015. La ville de Montpellier a été la première à se déclarer favorable à une large majorité dès le 24 juillet. Si le législateur a prévu la création automatique par décret de métropole de de droit commun des communautés de plus de 400 000 habitants dans une aire de plus de 650 000 habitants. D'autres agglomérations peuvent aussi y prétendre si leur territoire est supérieur à 400 000 habitants et qu'elles sont capitales régionales. C'est le cas de Montpellier, 430 000 habitants, dont l'évolution passe maintenant par une ratification à la majorité qualifiée des communes, soit les deux tiers des communes représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant au moins les deux tiers de la population.
La future métropole n'est pas qu'une nouvelle entité administrative. Réunis en conférence des maires, les élus de l'agglo ont dressé les contours d'une évolution consentie et négociée dans le respect des souverainetés communales et ont esquissé une nouvelle gouvernance. Collectivement, les maires ont surtout imaginé un pacte de confiance métropolitain qui a valeur de charte politique. L'intercommunalité doit être une coopération d'action publique au service des communes. D'ailleurs, les politiques métropolitaines seront systématiquement co-construites avec les communes, y compris pour l'urbanisme, la voirie et les espaces publics. Par ailleurs, les communes demeurent le premier maillon de la relation aux habitants, y compris pour les compétences métropolitaines.
Philippe Sorel a annoncé une première série d'orientations politiques, comme pouvant être celles sur lesquelles la métropole serait appelée à se développer demain. En premier lieu, la santé, en s'appuyant sur la faculté de médecine, la plus ancienne du monde occidental. L'innovation numérique, à travers la candidature à la French Tech, est un autre élément phare. Le tourisme, dont la promotion est une nouvelle compétence métropolitaine, constituant le troisième.
Au chapitre des compétences, justement, ce passage en métropole s'accompagnerait d'un certain nombre de compétences nouvelles conformément aux orientations de la loi, certainement échelonnées dans le temps. Cela concerne notamment l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, l'élaboration du diagnostic du territoire et la définition des orientations du contrat de ville. Mais aussi le service public de défense extérieure contre l'incendie, les voiries. Mais pour l'heure, ce sont donc les 31 communes de l'agglomération qui font l'actualité de la métropole et qui ont entre les mains son avis de naissance, déjà largement annoncé et commenté.
Qu'est-ce qu'une métropole ? À la lecture de la loi du 28 janvier 2014, la métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle regroupe plusieurs communes au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économique métropolitaine, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires de recherche et d'innovation dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré.
La métropole en cinq dates, 28 janvier 2014, publication au journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 17 juillet 2014, les élus de la communauté d'agglomération de Montpellier valident à une large majorité, au cours d'une séance extraordinaire, la saisine des conseils municipaux pour qu'ils se prononcent sur l'obtention par décret du statut de métropole.
24 juillet 2014, la ville de Montpellier valide à une large majorité le principe du passage de la communauté d'agglomération de Montpellier en métropole à la date du 1er janvier 2015. 18 octobre 2014, fin de la période de 3 mois durant laquelle les 31 communes de la communauté d'agglomération étaient invitées à se prononcer en conseil municipal sur le passage en métropole. Et le 1er janvier 2015, date du passage en métropole si les communes membres en ont décidé ainsi par un vote à la majorité qualifiée. Cette double page est accompagnée par une photo de la séance du jeudi 17 juillet 2014 de la communauté d'agglomération de Montpellier. Notez que le prochain rendez-vous, c'est le mercredi 1er octobre à 18h, ce sera la date du prochain conseil d'agglomération. Les pages portfolio de votre magazine Mon Agglo en photo, un été dans l'agglo.
Littoral ou charme de l'arrière-pays, patrimoine naturel ou monuments historiques, l'agglomération ne manque pas d'atouts estivaux. En mode farniente ou découverte, elle a tout pour séduire. L'été, c'est aussi un programme chargé dans les 31 communes du territoire où se mêlent soirées culturelles, manifestations sportives et traditionnelles. Des rendez-vous pour la plupart gratuits, comme les 28 concerts de jeunes solistes du Festival Radio France Montpellier-Languedoc-Roussillon, où se sont pressés 7200 spectateurs. Les 31 soirées sous les étoiles de L'Agglo fait son cinéma, où les 10 représentations du groupe urbain d'intervention dansée, le ballet Prège Locage et de Salia Sanou, signé Montpellier Danse, qui ont rassemblé 5000 personnes au cœur des communes. Retour en photo sur ces événements grand public.
Première photo, celle d'une des 194 manifestations du festival Radio France Montpellier Languedoc-Roussillon. On y aperçoit le duo Dimitri et Julien Bouclier en concert à Pérols. Autre vue, celle d'une des 13 piscines de Montpellier Agglomération qui ont proposé des animations gratuites tout l'été et l'entrée à 1 euro après 18 heures. Au programme, il y avait du kayak, du paddle ou encore de l'initiation au sauvetage. Une photo prise dans le parc de la Vérune lors de la 10e édition de l'Aglo fait son cinéma. Près de 6000 spectateurs ont assisté aux 31 séances gratuites en plein air. Nombreux publics également devant la médiathèque Françoise Giroud à Castries et pour l'un des spectacles gratuits donnés par Montpellier Danse dans les communes de l'agglomération. Ici, nous voyons les danseurs du ballet Prège-Locage. En tout, 5000 personnes ont assisté à ces représentations.
À Courmont-Terral, les Masters 2014 de tambourin, élément essentiel du patrimoine local, ont rythmé tout l'été et vu la victoire des deux équipes de Montpellier Agglomération. Un aperçu des Nuits des Étoiles proposé par le Planétarium Galilée et auquel plus de 1600 personnes ont participé au programme Observation du Soleil et séance spéciale comète. Les courses camarguaises et jeux taurins ont animé une bonne partie de l'été, comme sur cette photo prise à Bayargue, l'un des nombreux villages de l'agglo féru de tradition bovine.
Du monde et un riche programme à Latara. Visite guidée du site archéologique, exposition sur le peuple méconnu des Lapotes, soirée culturelle et gourmande avec le groupe Le Chauffeur et Dans le Pré. On aperçoit aussi de jeunes enfants à l'aquarium Mare Nostrum où le mois d'août était consacré aux requins en partenariat avec Discovery Channel et le Summer Racing Shark Tour. L'aquarium accueille 6 espèces différentes de requins.
Dernière photo de ces pages portfolio prise au musée Fabre où l'exposition Viala, une rétrospective se poursuit jusqu'au 2 novembre. Elle présente un panorama unique de cet artiste majeur du XXe siècle. Visite guidée, visite famille, Viala Box pour les enfants, tout est prévu pour vous faire entrer dans l'univers coloré de Viala. Le mot de la fin revient à Philippe Sorel, président de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Cet été, j'ai beaucoup parcouru les communes à la rencontre des habitants et des élus. L'agglomération est à leur côté pour animer le territoire et valoriser le patrimoine afin de préserver notre qualité de vie et notre attrait touristique. Dans les pages L'Aglo c'est nous, à Montaud, vendange précoce au cellier du Val-des-Pins. La cave des celliers du Val-des-Pins de Montaud est une des premières à vendanger depuis le 20 août et jusqu'à fin septembre sur 600 hectares dans le nord-est de l'agglomération. La récolte 2014 s'annonce bonne.
En ce premier jour de vendange, les viticulteurs se pressent à la cave coopérative de Montaud, les uns avec leur première récolte, les autres avec des échantillons de raisins, pour savoir quand la parcelle doit être vendangée, car la récolte se fait dans un ordre précis. On commence par les cépages blancs, essentiellement du chardonnay et du sauvignon, un peu de viognier, puis les cépages Syrah et Grenache destinés aux rosés et les mêmes plus mûrs pour les rouges, explique Brice Marquet, directeur de la cave coopérative des celliers du Val-des-Pins. Cette année, le ramassage a commencé 10 jours plus tôt que l'an dernier et la récolte s'annonce aussi bonne en quantité qu'en qualité. Par rapport à d'autres, nous avons été chanceux cette année. Pas de grêle, pas trop de pluie, explique Fabien Diette, viticulteur à Montaud. Comme Fabien, une trentaine de viticulteurs qui vivent exclusivement de cette activité fournissent 80% de la récolte de la cave. Celle-ci compte aussi une soixantaine d'autres coopérateurs qui ont une autre activité et continuent d'exploiter les parcelles transmises de génération en génération.
Les celliers du Val-des-Pins exploitent 660 hectares sur Montaud, Saint-Bosile-de-Montmel, Sussargues, Saint-Dré-Zéry et Castries. Ils produisent des IGP Pays d'Oc et des AOC Coteaux du Languedoc. Nous sélectionnons les raisins avec beaucoup de soin afin d'offrir des vins de qualité. Des blancs frais et brillants, des rosés souples et fruités, des rouges puissants et aromatiques, explique Brice Marquet. Le rosé explose. Ces 10 dernières années, nous avons doublé la production de rosé, précise-t-il. On est bien loin du rouge à 8 degrés sorti de la première cuvée de la cave en 1939, raconte un viticulteur en retraite qui s'est plongé dans les archives. Toutes les infos sur valdespins.com. Cet article est accompagné par une photo des cépages chardonnay destinés aux vins blancs qui sont les premiers à être ramassés sur cette parcelle près du village de Montaud.
À Saint-Georges-d'Orque, Cœur d'Orque pose sa première pierre. Ce nouvel écoquartier en cours de réalisation reliera d'ici 2015 le centre ancien du village au nouveau quartier. Sur 7 hectares, 350 logements seront construits pour accueillir de nouveaux habitants ainsi que des commerces et une nouvelle place. C'est un nouveau point de rencontre entre les anciens et les nouveaux Saint-Georgiens où se tiendront le marché et de nombreuses autres manifestations, explique Jean-François Audrin, le maire de Saint-Georges-d'Orque et conseiller délégué de Montpellier Agglomération. Cœur d'Orque sera traversé par par une liaison piétonnière arborée de 250 mètres de long et reliera le nouvel hôtel de ville, l'espace culturel et le plateau sportif avec une vue imprenable sur la plaine viticole. Les informations sont à retrouver sur ville-saint-georges-dorque.fr. Et puis cet article est accompagné par une photo. On y voit Jean-François Audrin, maire de Saint-Georges-d'Orque et conseiller délégué de Montpellier Agglomération, en train de poser en juillet dernier la première pierre de la ZAC Cœur d'Orque.
À Castelnau-le-Lay, une artiste autiste à la rencontre du grand public. Brigitte Nem, en photo ici, 35 ans, artiste peintre autiste, sera à Castelnau-le-Lay du vendredi 3 au dimanche 5 octobre pour présenter ses tableaux et prendre part à des ateliers de peinture animés par Sylvie Regard. Le public pourra également découvrir son histoire exceptionnelle à travers ce film documentaire Brigitte ou le chien qui aboyait à ma place, le vendredi 3 à 19h et le samedi 4 à 20h. C'est l'association d'éducation populaire Connaissance et Partage qui organise cet événement au Palais des Sports de Montpellier avec le soutien de la ville de Castelnau-le-Lay. L'entrée est libre. Les infos sur castelnau-le-lay.fr.
À Vendargues, le cheval à la fête. Démonstration de tri de bétail, d'attelage, de voltige, de dressage. Le cheval est dans tous ses états dimanche 21 septembre à Vendargues, à l'occasion de la fête du cheval organisée par l'association Élevage Équitation Camargue, la commune de Vendargues avec le soutien de Montpellier Agglomération. Promenade en calèche depuis le parking jusqu'au site, poney pour les tout-petits et restauration sur place. Rendez-vous à l'espace Cadoule de Vendargues de 11h à 17h. L'entrée est libre.
À Saint-Jean-de-Védas, le chai du Terral mélange les genres. Ancienne résidence d'été des évêques de Maglone, le domaine du Terral abrite une dizaine d'associations culturelles. Les écoles municipales de musique et d'art, un lieu d'exposition et la salle de spectacle, le chai du Terral d'une capacité de 390 places. Depuis 3 ans, cette scène programme des artistes confirmés mais aussi des jeunes talents qui souvent mixent les modes d'expression, cirque, danse, théâtre ou musique. 12 000 spectateurs y sont venus l'an passé assister à une quarantaine de représentation. Cette année, la saison commence fort le 3 octobre avec le célèbre rappeur-poète Oxmo Puccino. On retiendra aussi en décembre une semaine jeune public avec un spectacle pour les tout-petits à partir de 18 mois et le 17 mars, les Pokémon Crew, vainqueurs du Battle of the Year 2010 pour les adolescents. Le théâtre est équipé d'un bar et d'un point restauration ouvert avant et après les spectacles. En photo avec cet article, le chai du Terral installé dans le superbe écrin du château du Terral, cette salle de spectacle entame sa 3e saison sereinement. Depuis 2012, date de son lancement par la ville de Saint-Jean-de-Védas, elle s'est forgée une identité artistique et s'est faite connaître du public.
À Grabels, à l'occasion du centenaire de la mort de Jean Jaurès, la ville de Grabels coproduit et présente un spectacle déambulatoire le 27 septembre, c'est un samedi, à 17h30, place Paul Chassary. Rue Jean Jaurès a été créée par la compagnie CIA autour des valeurs de la République et de la figure de Jean Jaurès, dont les convictions pacifistes lui vaudront d'être assassiné le 31 juillet 1914, à la veille de l'entrée en guerre de la France. La ville de Grabels a également baptisé du nom de Jean Jaurès sa plus grande place, la place de l'ancienne coopérative, le 31 juillet dernier. Le spectacle Rue Jean Jaurès est également donné à Latte, le jeudi 25 septembre à 15h, départ du théâtre Jacques Coeur, l'entrée est libre.
À Villeneuve-les-Maglones, au Cresse, les dernières fêtes de septembre, alors que les obligations de la rentrée se font sentir, quelques fêtes prolongent les réjouissances de l'été en ce mois de septembre. Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre, 2 possibilités, la Feria des Vendanges à Villeneuve-les-Baglones, au centre-ville et aux arènes, et le revivre de la fête aux arènes du Cresse. Au programme, animation taurine, abrivado, anciero, bandido, bodegas et bal. Plus d'infos sur ville-lecresse.fr ou sur villeneuve-les-maglones.fr.
À Latte, la belle saison du théâtre Jacques Coeur. Clovis Cornillac, Daniel Mesguich, Robin Renucci, les grands noms sont une nouvelle fois au rendez-vous de la programmation du théâtre Jacques Coeur de la ville de Latte, qui commence fin septembre. Installé dans le Mas d'Ancivade, qui servait d'entrepôt à Jacques Coeur au XVe siècle, il propose aussi des cours de théâtre de grande qualité.
Aménagé donc dans le Mas d'Ancivade, au bord du Lay, le théâtre Jacques Coeur s'inscrit dans l'esprit du théâtre populaire cher à Jean Villard. Ici, on aime les grands classiques du répertoire, on ne méprise pas le vaudeville et on sait tout autant accueillir de jeunes créateurs issus de la scène régionale. Après Marion Aubert et Jacques Allaire l'an passé, c'est au tour du metteur en scène Guillaume Sévrac-Schmitz et du comédien Nicolas Pichot de la compagnie Astrolabe de représenter cette génération montante. Depuis l'an passé, le théâtre propose aussi, sous le label Imprudence, des spectacles qui s'aventure sur des terrains surprenants, comme Dos à deux, spectacle visuel à succès autour de l'histoire d'un enfant-loup, déjà joué près de 300 fois dans le monde.
Côté classique, cette année, le théâtre propose Andromaque de Racine, le Cid de Corneille avec la comédienne Stérène Guiriec, vue dans Les Mystères de Paris, mais aussi Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Une pièce de Claudel et un Molière burlesque sont aussi au programme. Et pour le jeune public, 5 spectacles sont programmés cette année. Tête d'affiche de la saison, la star du petit écran Clovis Cornillac, qui retourne au théâtre après 13 ans d'absence, seul sur scène, dans la contrebasse de Patrick Suskind, comme l'avait fait avant lui Jacques Villeray. Robert Renucci, lui aussi, bien connu des cinéphiles, sera en résidence au théâtre pour y créer Le Faiseur de Balzac. En tant que directeur du Centre National Dramatique des Tréteaux de France, Robert Renucci supervise par ailleurs les différentes formules d'ateliers de pratique théâtrale proposées au Théâtre Jacques Cœur. L'acteur donnera lui-même un masterclass de 2 jours sur l'adresse et le jeu, les 21 et 22 mars. Depuis 4 ans, en effet, le Théâtre Jacques Cœur accueille les cours décentralisés des Tréteaux de France, qui s'adressent aux amateurs de tous âges et niveaux. Pour les cours à l'année, 18 cours de 2 ou 3 heures pour 340 euros. Les inscriptions sont ouvertes dès ce mois de septembre. Il existe aussi des formules masterclass sur 1 ou sur 2 jours. Plus d'informations sur ville-latte.fr/théâtre.
Robin Ranucci qui est en photo, comme Clovis Cornillac dans la contrebasse. À Grabels, la Vérune et Vendargues, des trésors aux journées du patrimoine. Samedi 20 et dimanche 21 septembre, les communes et équipements de l'agglomération dévoilent leurs trésors patrimoniaux. Une invitation à la découverte et aux échanges autour de petits et grands édifices historiques.
Remparts, églises aux deux clochers, bugadières, Grabels est riche d'un passé historique mis en lumière par la municipalité et l'association Loudragas. Le 20 septembre, c'est au château que vous avez rendez-vous. Simple masse à sa construction au XVIIe siècle, Jean de Massane et sa famille ont au fil des années embelli leur domaine situé au bord de la Mausson. Deux moulins à huile et à blé y furent construits. Ils tentèrent à plusieurs reprises de transformer ce mas en château et d'obtenir le titre de seigneur de Grabels. Mais c'est seulement le nouveau propriétaire du mas, Louis de Solas, trésorier de France, qui parviendra en achetant la seigneurie de Grabels à l'évêque de Montpellier François Renaud de Villeneuve le 27 mai 1755. Aujourd'hui, ce château a fière allure, raconte Jean Martinier, président de l'association Loudragas. Fondée en 92 par Paul Couder, cette association de passionnés mène depuis des années des travaux de recherche sur la commune. Auteur de nombreux ouvrages, elle recense actuellement les souvenirs de la guerre de 14-18 pour une publication prévue en octobre. Tous les renseignements sur loudragas.e-monsite.com ou bien sur ville-grabels.fr.
À Vendargues, les journées du patrimoine seront l'occasion de mettre à l'honneur un natif de la commune, personnalité de renommée internationale, le général Berthézen, qui a vécu de 1775 à 1847. Né et mort à Vendargues, parti de rien, ce chef militaire, gouverneur de l'Algérie, deviendra l'un des plus importants généraux de France, paré de titres glorieux comme la Grand Croix de l'Ordre National de la Légion d'honneur. La rue principale de la commune porte son nom, sa maison natale, devenue annexe de la mairie, est ornée d'une plaque commémorative et samedi 20 septembre à 11h30, un buste en pierre de taille réalisé par un sculpteur de Saint-Geniès-des-Mourgues sera posé sur sa façade. Ce grand Vendargois mérite cet honneur, son nom est même inscrit sur l'Arc de Triomphe à Paris, précise Richard Pouget qui a consacré de nombreuses recherches à l'histoire de Vendargues. À 15h, ce même jour, ce passionné donnera à la salle Tessier une conférence intitulée « Les Templiers à Bagnères, la fin d'une légende », exposant ses dernières découvertes sur ce site en ruine bien connu des promeneurs situé à la limite de Castries et qui fut occupé pendant près de 4 siècles. Toutes les infos sur vendargues.fr/page/histoire-et-patrimoine.
Musique au château des évêques de La Vérune. Après Catherine de Médicis en 1579, Louis XIII en 1622, le gendre du roi d'Espagne en 1747, à votre tour de visiter le château des évêques de La Vérune, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les 20 et 21 septembre après-midi, des visites guidées sont menées par la municipalité. Ce château et son parc étaient un haut lieu de la vie mondaine sous le règne des évêques. Son passé riche en faits historiques et anecdotes, des batailles navales était par exemple organisé sur les bassins, explique Delifraisse, adjointe à la culture et au patrimoine, qui organise notamment des visites guidées spéciales famille dimanche à 15h. Aujourd'hui, les pièces restaurées du château accueillent la médiathèque d'agglomération Jean de la Fontaine, spectacle Les Fables de Jean de la Fontaine par Pierre Gorce samedi à 10h30, le musée Auferbury et le joyau de cette imposante propriété, le salon de musique XVIIIe siècle. Un concert gratuit aura lieu dimanche à 18h dans cette très belle salle très appréciée par les musiciens, avec Sherman Plesner au violon et Yaya Okumaya au piano, au programme Chopin, Debussy et Massenet pour clôturer ces journées du patrimoine. Toutes les informations sur laverune.fr.
Et plusieurs photos illustrent cette double page. On y aperçoit notamment le château de Grabels, propriété de Jean de Massade au XVIIe siècle, le portrait du général Berthézen, l'un des plus importants généraux de France au XIXe siècle, et puis la photo d'un château et d'un parc inscrit à l'inventaire des monuments historiques, en l'occurrence le château des évêques de la Vérune.
Pour plus d'informations sur ces journées européennes du patrimoine, vous pouvez aller sur le site montpellier-aglo.com/patrimoine2014.
La rubrique Attractive Aglo, la folie des food trucks. Ils sont les nouvelles stars des déjeuners sur le pouce. Ces camions cantines proposent une cuisine de rue aux accents gastronomiques, innovantes et à des prix abordables. À la ville comme dans les villages, les food trucks fleurissent progressivement dans le paysage de l'agglomération. Découverte de ces restaurants à 4 roues qui ne vous laisseront pas sur votre faim.
Sur les parkings des centres commerciaux, à proximité des bureaux et sur les places animées des communes, les food trucks, ces camions transformés en cuisine mobile et au design si particulier, passent rarement inaperçus. C'est un phénomène nouveau, originaire des États-Unis, ludique et drôle, permettant de manger rapidement et de manière saine, constate Erwan Michala, créateur de monitinérant.com, un site de référencement par géolocalisation des professionnels ambulants. Loin des clichés de la malbouffe, ces food trucks se positionnent comme une alternative plus saine que les fast-food à l'heure du déjeuner. Leur but ? Proposer des plats composés de produits de qualité et locaux, préparés devant les clients dans des zones très fréquentées où il n'y a pas ou peu d'offres de restauration.
Selon l'association Street Food en Mouvement, il existerait près de 400 food trucks en France et leur nombre devrait s'amplifier ces prochaines années. Acquérir un commerce ou un restaurant étant désormais plus difficile, bon nombre d'amoureux de la cuisine dotés d'une âme d'entrepreneur se tournent vers cette nouvelle activité, plus flexible et moins contraignante. La street food pourrait être à l'origine de la création en France de 10 000 à 15 000 emplois à court terme, poursuit Erwan Michala. Malgré des perspectives de croissance prometteuses, les food trucks ne sont pas des affaires à mettre entre toutes les mains. Pour monter un camion dans les règles de l'art, il faut investir entre 50 000 et 60 000 euros. Et cela peut même monter jusqu'à 100 000 euros, puis trouver le bon emplacement et surtout ne pas compter ses heures, rappelle Jean-Philippe Carrère, créateur du Duke à Montpellier. Du traditionnel hamburger jusqu'à des saveurs plus exotiques, les food trucks de l'agglomération se tiennent prêts à vous régaler.
Pionnière, Christelle Pedroso-Febra et Delphine Richard ont démarré leur aventure il y a 4 ans, au moment où les premiers food trucks sont apparus à Paris, précise-t-elle. Nos produits sont 100% bio et 100% fait maison. Nous cuisinons tout dans notre camion, poursuit Christelle Pedroso-Febra. L'occasion pour les deux associés de travailler avec des aliments de saison et de redoubler de créativité dans leur préparation. Chaque semaine, Bio comme un camion investit les marchés de l'agglomération, celui des Arceaux le mardi, Antigone le mercredi ou encore Villeneuve-les-Maglone le vendredi. La gestion d'un camion n'est pas la même que celle d'un restaurant. Notre camion est une entreprise à taille humaine et souhaite le rester, conclut Delphine Richard. Plus de renseignements sur Bio comme un camion, rendez-vous sur facebook.com/bio-com-1-camion.
Coucou Ling, des saveurs asiatiques à Grabels. La formule est simple, en cuisine, Ko et Ling, deux sœurs et une carte 100% asiatique, avec des boboons et bien d'autres délices à découvrir. Ancienne graphiste à Paris, Ko a passé un CAP en cuisine en 2010 avant d'arriver dans le sud. Je n'avais pas envie de me lancer dans la restauration, les horaires décalés étaient incompatibles avec ma vie de famille, indique-t-elle, d'où l'idée du food truck. Coucou Ling a pris ses quartiers sur le parking de la Valsière à Grabels, à proximité d'Euromédecine, un lieu présentant un avantage indéniable, nous allons chercher les clients directement sur leur lieu de travail, affirme l'entrepreneuse. Nous aimerions aussi nous installer ailleurs, mais les autorisations sont délivrées au compte-gouttes par les municipalités. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook de Coucou Ling.
Le Duke, une street cantine qui a du goût. C'est à 35 ans et après un licenciement économique que Jean-Philippe Carrère a décidé de créer le Duke. Avant de se lancer dans le grand bain, il a choisi de se former. D'abord en apprenant les bases de la cuisine au Mas des Moulins, puis à l'AOC de Montpellier, avant de suivre une formation en snacking et street food dans le célèbre centre du chef Alain Ducasse à Paris. Depuis juin dernier, le Duke stationne sur la zone d'activité de l'aéroport à Pérols et sur le parc de Bellegarde à Castelnau-le-Lez. À proximité d'entreprises comme Ubisoft, MedTech ou Dell, complète Jean-Philippe Carrère. Sur place, la mayonnaise semble prendre. Ses clients sont autant séduits par le concept novateur que par ses hamburgers. Tout est préparé le jour même et à base de produits frais, insiste le créateur du Duke, qui espère pouvoir embaucher des renforts dès l'an prochain. Et puis pour tout savoir sur le Duke, rendez-vous sur facebook.com/leduke34.
On aperçoit d'ailleurs Jean-Philippe Carrère installant son Duke tous les mardis et jeudis sur le parc de Bellegarde à Castelnau-le-Lay. Autre photo, celle de Christelle Pedroso-Febra et Delphine Richard de Bio comme un camion. Et puis des deux sœurs, Kao et Ling de Coucou Ling.
En bref, des entreprises du BIC primées à l'Élysée, trois sociétés montpelliéraines accompagnées par le Business and Innovation Center, le BIC de Montpellier Agglomération, ont été récompensées dans la catégorie Big Data du concours mondial de l'innovation 2030, lancé en décembre 2013 par le président de la République. Ces trois entreprises sont Fruition Science, Expernova et Telmi Plus.
Grégory Cladera, nouveau président de Novae LR. À 35 ans, l'actuel PDG de RG System, une PME spécialisée dans les solutions de monitoring informatique à Pérol, succède donc à Philippe Naoum Chosit à la présidence de Novae LR. Cette association, qui rassemble plus de 120 entreprises régionales spécialisées dans les TIC, a pour mission de développer et structurer la filière du numérique dans la région.
Les étudiants de Supagro distingués, ils ont remporté en juillet dernier le premier prix du concours national de l'innovation alimentaire Ecotrophélia avec Duo Marin des Lardons de la Mer, un aide culinaire innovant composé de duos de poissons frais. L'équipe de Montpellier Supagro représentera donc la France lors de la finale européenne qui se tiendra les 19 et 20 octobre prochains à Paris. Dans vos pages, l'Aglo Demain, un réseau d'assainissement plus moderne avec René Revol, maire de Grabels, vice-président de Montpellier Agglomération, chargé de l'eau et de l'assainissement. L'intercepteur Est est un long tuyau de 12 km qui acheminera d'ici fin 2016 les eaux usées de 16 communes à la station d'épuration Maera. Déjà posé sur 6 km, il est en cours de réalisation le long du parc Méric et se poursuivra sur l'avenue de la Pompignane. Un chantier exemplaire au niveau environnemental comme sur les plans techniques et financiers. Alors pourquoi l'agglomération a-t-elle entrepris ces travaux, René Revol?
Montpellier est équipé d'anciens réseaux unitaires qui collectent les eaux usées, les eaux pluviales. Lors de fortes pluies, il arrive qu'elles se mélangent et ressortent diluées dans le milieu naturel. L'intercepteur Est permet de limiter le transit des eaux usées dans le réseau unitaire en les acheminant dans un tuyau dédié.
Et comment se passe le chantier?
L'intercepteur Est est un tuyau d'un diamètre de 30 cm à 1,2 m qui va de Prades-le-Lay à la station d'assainissement Maera à Lattes en passant 4 fois sous le Lay. C'est un énorme chantier réalisé à 50%. Et fin octobre, le tronçon qui va du rond-point d'Agropolis au bas de la rue de l'Adret près du parc Méric sera terminé. Le chantier a été mené en même temps que celui du Conseil Général sur la départementale 65 afin de limiter les coûts et les nuisances. On a aussi veillé à ce que l'accès au parc Méric reste ouvert le week-end. Enfin, on en a profité pour raccorder au réseau des maisons qui n'étaient pas.
Quand ces travaux d'assainissement seront-ils terminés?
La cinquième et dernière tranche de travaux sur l'avenue de la Pompignane commencera cet automne. Pour limiter l'impact sur la circulation, nous utiliserons un micro-tunnelier, une technique de pointe qui permet de ne pas creuser de tranchées sans surcoût. L'intercepteur Est sera mis en service fin 2016. Il collectera les effluents produits par 225 000 habitants et aura coûté 35,9 millions d'euros. Il marquera aussi la fin de la réalisation du schéma directeur d'assainissement lancé il y a 10 ans pour un total de 375 millions d'euros. Grâce à ces investissements, toutes les communes seront à un niveau d'équipement et de qualité de service comparable. La qualité des eaux du Lay et des étangs à laquelle nous sommes tous attachés s'est aussi considérablement améliorée.
Les 16 communes en question sont Castelnau-le-Lay, Castries, Clapiers, Jacoux, Le Cresse, Montferrier-sur-Lay, Pérols, Prades-le-Lay, Vendargue, quartier nord de Montpellier et hors agglomération, Assas, Saint-Aunès et Téran.
On aperçoit ici une photo sur la rue de Ferrand le long du parc Méric avec la pose de l'intercepteur Est qui sera donc terminée à la fin du mois d'octobre.
Le pôle multimodal de Baillargues inauguré. Le pôle échange multimodal de Baillargues est un exemple d'aménagement du territoire à l'échelle métropolitaine, a déclaré Philippe Sorel, président de Montpellier Agglomération, lors de son inauguration le 24 juillet dernier. Ce nouvel équipement ferroviaire réalisé par la région Languedoc-Roussillon et RFF, financé à hauteur de 23,7% par Montpellier Agglomération, permet d'articuler sur le même site différents modes de déplacement, TER, bus, tram, vélo, etc. Bayargues est désormais à 8 minutes de la gare Montpellier-Saint-Roch. Lors de la deuxième phase de travaux, le passage à niveau accidentogène sera remplacé par un passage souterrain. Une concertation publique sera organisée cet automne.
Sur cette même page, une des premières images de la gare Montpellier-Sud de France. Montpellier à moins de 3 heures de Paris, c'est pour la fin de l'année 2017. Les travaux du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier sont en cours depuis fin 2012 et ceux de la gare de Montpellier-Sud de France débuteront l'an prochain. 142 700 000 euros sont mobilisés pour ce projet, dont 11,8 millions financés par Montpellier Agglomération. Le 23 juillet dernier, le groupement ICAD a été désigné titulaire pressenti par le président de Réseau Ferré de France pour réaliser cet équipement majeur au cœur du secteur de la Mogère, qui accueillera 3,5 millions de voyageurs par an à l'horizon 2030.
Concertation sur le projet d'extension de la ZAC Martel à Villeneuve-les-Maglones. Située à proximité de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, l'extension du secteur d'activité économique l'ARZAT Charles Martel est à l'étude. Sur 10,6 hectares, elle permettra d'accueillir une vingtaine d'entreprises dédiées à des activités économiques, artisanales et de la petite industrie, représentant près de 200 emplois supplémentaires. Une réunion publique se tiendra le mercredi 1er octobre à 18h30 au théâtre du Centre culturel Béranger de Frédolles, de la commune, afin de présenter ce projet. Le dossier sera également à la disposition du public à l'hôtel de ville et à l'hôtel d'agglomération du 26 septembre au 26 octobre. Le public pourra consigner ses observations dans un registre prévu à cet effet.
La figure d'agglo de ce mois-ci est consacrée à Johanna Harel. Du 13 au 26 septembre, Montpellier accueille les championnats du monde de sauvetage sportif. Les épreuves en eau plate ont lieu à la piscine olympique d'Antigone et celle dite côtière à la Grande Motte. 5000 sauveteurs du monde entier sont attendus. Déjà championne d'Europe, Johanna Harel, elle, évoluera à domicile et vise un titre.
Elle a emprunté une trajectoire express, de l'Antigone des associations où Johanna Harel a fait la connaissance de son club Aqualove au podium des championnats du monde, 6 ans à peine se sont écoulés. Originaire de Villeneuve-les-Maglones, âgée de 24 ans, elle s'entraîne désormais à Montpellier avec le Pôle France. En 2012, elle figurait parmi les 12 membres de l'équipe de France qui s'est illustrée en Australie, pays où est né le sauvetage sportif et où il est le sport numéro 1, en prenant la 3e place des championnats du monde. À Adélaïde, on a fait un podium. Cette fois à domicile, notre objectif, c'est d'être titré, dit-elle avec enthousiasme. Peu connue du grand public, mais en plein boom à l'image d'Aqualove à Montpellier, qui n'en finit pas de grandir, le sauvetage sportif rassemble des sauveteurs dont l'activité première est d'épargner des vies, parfois au péril de la leur. Mais ce sont aussi de remarquables compétiteurs. Ces championnats du monde décrochés par Aqualove il y a 4 ans au Vietnam regroupent pas moins de 12 épreuves distinctes. Certaines ont lieu en piscine avec palmes, apnée ou remorquage de mannequins. D'autres dites côtières prennent la forme de parcours dans l'eau avec planches, kayak, course à pied ou nage au menu.
Deux autres licenciés d'Aqualove sont engagés sur ce mondial. Jérémy Badré et Margot Fabre sont des spécialistes de la piscine. Johanna sait qu'elle avance à vive allure. Je suis venu avec ma mère en 2006 à l'Antigone des associations dans l'idée de faire de l'athlétisme. Puis, j'ai rencontré les gens d'Aqualove. J'ai accroché tout de suite. J'ai eu mon premier titre en cadette. J'ai intégré l'équipe de France junior dès 2008 et senior ensuite. Et j'ai passé 3 ans à Valence pour mes études et un BTS de prothésiste des membres. Au milieu de journées où il n'y a de la place pour rien d'autre, Johanna alterne les entraînements et son activité professionnelle de prothésiste chez Marcenac Ducrot à Montpellier. La compétition, c'est beaucoup de sacrifices et une hygiène de vie stricte, mais j'ai toujours voulu combiner le sport et le paramédical. J'ai eu un coup de cœur pour ce métier, j'ai la chance de bénéficier d'horaires aménagés et d'être très soutenue par mon entreprise, concède notre championne d'Europe de relais tapline et rescue tube et vice-championne d'Europe de beach flags et planches. Elle est aussi présidente de l'association Handicap Avenir Sport et Loisirs. En juin dernier, à Palavas-les-Flots, elle a organisé avec divers partenaires une journée d'initiation au sauvetage sportif en présence d'une 50aine de personnes amputées. Mais pour l'heure, elle est pleinement concentrée sur cette Rescue 2014 qui à Montpellier rassemble en fait 5 championnats du monde en un. Elle sait qu'un titre mondial est à sa portée en individuel et en relais. Ce rendez-vous, je l'ai dans la tête depuis un bon bout de temps.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur aqualove.fr ou bien rescue2014.fr. D'agglo en agglo, le cirque de Navacelles en pays viganais. Du littoral au Garrigues, le territoire de l'agglomération est un espace ouvert sur les communes voisines. Cette nouvelle rubrique dédiée au tourisme de proximité vous invite à découvrir leur formidable patrimoine naturel et culturel. Première balade au cirque de Navacelles, un grand site de France aménagé par la communauté de communes du pays viganais.
Certains y voient une coquille d'huître, d'autres une île ou un cœur. Près de 300 000 personnes s'émerveillent chaque année devant le cirque de Navacelles, l'une curiosité géologique et naturelle formée par un méandre abandonné de la rivière Vis il y a 6000 ans. Située entre les causses de Blandas et du Larzac, dans le prolongement des gorges de la Vis, à 17 km du Vigan et 23 km de Ganges, il abrite un charmant hameau et une belle cascade. Ce paysage spectaculaire est visible depuis le belvédère de Blandas qui offre 4 points de vue panoramiques de toute beauté, en bordure de falaises ou sur des promontoires. On y arrive par un sentier accessible à tous, en marchant le long de murs de pierres sèches, à l'ombre des chênes ou dans la lande à buis typique de la végétation d'Écosse. L'entrée est gratuite, de même que l'accès à la maison de pays où sont présentés une exposition et un film pédagogique et qui abrite un restaurant et une boutique avec des produits du terroir.
Pour les meilleurs marcheurs, la balade peut se poursuivre vers Blandas et descendre dans le cirque de Navacelles en passant par le moulin de la Fouxe, où la Vis ressurgit de son lit souterrain et jaillit de la montagne. Elle permet d'apprécier toute la diversité de la végétation. Érables de Montpellier, asperges sauvages, orchidées, cèdres du Liban et fougères, au frais près de la rivière. Dans les airs planent parfois de très grands rapaces. Ce peut être des vautours, réintroduits sur le Larzac il y a 40 ans, ou des aigles. Labellisé Grand Site de France Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, au titre de l'agropastoralisme dans les Causses et Cévennes, le cirque de Navacelles représente un patrimoine unique. Occupé depuis la fin du néolithique, dont témoignent dolmens et menhirs, le causse du Blandas vit grâce aux éleveurs et cultivateurs attachés à ce plateau aride et venté. Le tourisme qui se développe aujourd'hui dans le pays viganais et dans les Cévennes méridionales reste très lié à ce patrimoine rural et à ces paysages préservés, appréciés des Néerlandais et des Anglais, mais aussi des Montpelliérains. Ces grands espaces sauvages servent aussi parfois de décor de films, comme pour Barbecue, avec Florence Foresti et Franck Dubosc, tourné l'an passé. Plus d'infos sur cirquenavacelles.com.
Plaisir d'agglo avec Antigone des associations, le rendez-vous de la rentrée. Chaque année, 100 000 visiteurs arpentent les rues d'Antigone à la rencontre des associations et des institutions lors de l'Antigone des associations organisée par la ville de Montpellier. Au cœur de l'événement, Montpellier Agglomération propose un espace utile et divertissant autour de ses services aux citoyens. Transport, médiathèque, sport, musée Fabre et Latara, planétarium Galilée, aquarium, collecte des déchets et tri sélectif, eau, développement économique, téléalarme et passe agglo. Programme aussi des animations autour du télescope du planétarium, des animaux marins de l'aquarium ou encore des poubelles pédagogiques. Une initiation d'équilibrisme sur une slackline, un jeu de piste et des cadeaux à la clé. Rendez-vous donc le dimanche 14 septembre, Montpellier-Antigone, de 9h à 19h. Toutes les infos sur montpellier.fr, montpellier-aglo.com. L'entrée est libre.
Park & Suites Arena, Tony Parker sur le parquet. Candidate pour accueillir les prochains mondiaux de basket, Montpellier se met en jambe en accueillant l'Apart City Cup, qui réunit le meilleur du très haut niveau européen et des shows NBA autour de la star incontestée Tony Parker. Sur deux jours, ce tournoi amical verra s'affronter le Partizan Belgrade, l'ASVEL de Lyon-Villeurbanne, le club de Tony Parker, la SIG de Strasbourg et le FC Barcelone. Il se clôturera par un match de gala de la Tony Parker Team, qui rassemblera les meilleurs joueurs NBA face au Paris Levallois. De nombreuses animations seront proposées pour en faire un événement ludique et convivial. L'agglomération est le premier financeur des championnes de France, les Gazelles du basket Latte Montpellier Agglomération, BLMA. C'est donc les 20 et 21 septembre, Park & Suites Arena à Pérols, à partir de 15h30. Renseignements par téléphone au 04 67 17 69 69, sur internet apartcitycup.com. Les tarifs de 10 à 78 euros pour le passe de jour.
Un festin de pierre, art de rue à Saint-Jean-de-Védas. 18 compagnies, 52 représentations, 8 à 10 000 spectateurs attendus. 6 ans après sa création, le festival Festin de pierre est l'un des festivals des arts de rue les plus importants du sud de la France. Il accueille cette année des artistes renommés comme la compagnie Underclothes qui présente le samedi soir son Funambus, une fabrique d'utopie nomade et artistique métamorphosée en bus à usage spectaculaire, comme le montre la photo sur cette page. Voltige, humour, musique, danse, les propositions de ce festival sont variées et accessibles à tous. Le jeune public n'est pas oublié avec des ateliers cirque dès 3 ans. C'est donc un week-end festif pour se détendre après le stress de la rentrée, les 20 et 21 septembre à partir de 14h à Saint-Jean-de-Védas. Plus de renseignements au 04 67 07 83 11 sur internet festindepierre.com. L'entrée est libre.
Jusqu'au 20 octobre, installation caméra Locus. Julien Gardère a imaginé à Latara une installation visuelle et sonore très colorée qui transforme littéralement le musée. C'est à Lattes, site archéologique Latara Musori Prad, téléphone 04 67 99 77 20, sur internet muséearchéo.montpellier-aglo.com. Les tarifs vont de 2 à 3,5 euros, avec le pass aglo c'est 3 euros.
Jusqu'au 2 novembre, la suite de l'exposition Claude Viala, une rétrospective, figure essentielle de l'art du XXe siècle, Claude Viala expose 150 œuvres où la forme se répète pour mieux explorer la couleur et la matière. C'est au musée Fabre à Montpellier. 04 67 14 83 00 pour les renseignements. Le site internet muséefabre.fr. L'entrée de 7 à 9 euros, 8 euros avec le pass aglo.
Vendredi 12 septembre du cirque L'Arbre à thé. Les acrobates de la compagnie rêvent autour d'une installation de 6,50 m de hauteur, aussi innovante que spectaculaire, un spectacle tout public à Castelnau-le-Lay, au Grand Parc La Porte, à 18h. Les renseignements sur internet, castelnau-le-lay.fr, l'entrée est libre.
Du 12 septembre au 12 novembre, exposition 14-18, médecine au champ d'honneur, les médecins montpelliérains au front, la chirurgie de guerre, les avancées médicales à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est à la faculté de médecine de Montpellier, du mardi au samedi de 13h30 à 17h30. Le site internet univ-momp1.fr, l'entrée est libre.
Le samedi 13 septembre du football, le Montpellier-Lorient pour la 5e journée de la Ligue 1. C'est au stade de la Mosson à 20h à Montpellier donc. Téléphone 04 67 15 46 00. Les tarifs vont de 10 à 50 euros avec le pass aglo 4 euros.
Dimanche 14 septembre, un concert, celui de Scottish Biram, du blues et country, from Texas à Saint-Jean-de-Védas, au Secret Place à 20h, téléphone 04 67 68 80 58, le site internet toutafond.com, le tarif 8 euros.
Du 19 au 21 septembre, un festival accordéon pluriel avec des concerts, des stages, des ateliers. C'est à Montpellier, Celle-Neuve. Les renseignements sur internet à montpellier-accordéon.fr. Les tarifs sont de 3,50 euros à 8 euros.
Du rugby, le samedi 20 septembre, avec la rencontre Montpellier-Stade français. Ça compte pour la 6e journée du top 14 à l'Altrad Stadium, complexif du manoir. Les renseignements sur montpellier-rugby.com ou par téléphone 04 67 47 99 71. Les tarifs de 19 à 57 euros et avec le pass aglo, vous avez moins 20% sur les abonnements.
Un concert Little Bazar à Saint-Bresse, salle Sabatier à 20h30, le téléphone 06 83 52 89 22, le site internet little-bazar.blogspot.fr. La participation est libre, vous donnez ce que vous voulez.
Autre concert le 20 septembre, celui de Britten et Beethoven sous la direction de Maxime Tortelier, l'une des étoiles montantes de la direction d'orchestre en compagnie de Pia Segerstam, violoncelle solo de l'Orchestre National de Montpellier. C'est au château de Castries à 18h. Concert donné aussi à l'Opéra Comédie à Montpellier le dimanche 21 à 17h. Toutes les infos sur opéra-orchestre-montpellier.fr. Les renseignements 04 67 61 67 61. Le tarif est de 10 euros.
Mardi 23 septembre, une rencontre. Grégoire Delacour, l'auteur du best-seller « La liste de mes envies », présente son dernier roman « On ne voyait que le bonheur ». C'est donc à la médiathèque Émile Zola à Montpellier à 18h30. Renseignements au 04 67 34 87 00. L'entrée est libre. Les renseignements sur internet à médiathèque.montpellier-aglo.com.
Montpellier-Monaco, c'est du foot le 24 septembre, un mercredi soir pour la 7e journée de Ligue 1, stade de la Mosson à 20h. Les infos par téléphone 04 67 15 46 00. Les tarifs de 10 à 50 euros et réduction de 4 euros avec le pass aglo dans les maisons de l'agglomération et dans la limite des places disponibles.
Du 25 septembre au 25 octobre, festival Fleurs de Vie, Fleurs de Jazz. Plus de 18 concerts dans l'Hérault et notamment aux Gammes à Lattes. Le numéro de téléphone pour vous renseigner, 04 67 65 00 16. Sur internet, fleursdejazz.com. Les tarifs vont de 8 à 12 euros.
Et retour au stade de la Mosson, samedi 27 septembre pour Montpellier-Guingamp, 8e journée de Ligue 1 en football. C'est à partir de 20h. Les places vont de 10 à 50 euros avec le pass aglo 4 euros.
Toujours le 27 septembre, un concert, celui de Thomas Dutronc à Montpellier, à l'Opéra Berlioz à 20h30. Les tarifs vont de 23 à 33 euros.
Le même jour du théâtre L'Engrenage 1914-1918. Patrick Poivre d'Arvor et Guillaume Apollinaire qui assistent en 1913 à la montée de la folie destructrice en Europe évoquant le discours fatal de Jean Jaurès. C'est à Latte au théâtre Jacques Coeur à 20h30. Les infos sur ville-latte.fr/théâtre. Par téléphone au 04 99 52 95 00. Tarif de 18 à 35 euros.
Concert avec le quatuor de cuivre de l'Orchestre National de Montpellier à Castelnau-le-Lez dans l'église Saint-Vincent à 21h. Téléphone 04 67 14 27 40. Renseignements sur internet sur le site castelnau-le-lez.fr. Les tarifs vont de 5 à 8 euros.
Un festival, 2 plus 2 égale 5, toujours le 27 septembre, 5e édition du festival avec 8 groupes. Harold Martinez, Mofo Party Plan, Moonsoon, Hydro and Charlie Cut, Reet, My Great Blues Cadillac, Paperboat Sailors et Khalid. C'est à Montpellier, à la Maison pour tous, Léo Lagrange, de 18h30 à 1h30. Les infos sur festival2+2=5.fr. L'entrée est libre.
Pour le jeune public, Mamselle Flamenca, un spectacle musical de flamenco à partir de 3 ans pour toute la famille. C'est à la médiathèque Victor Hugo à Montpellier à 16h30. Renseignements par téléphone aux 04 67 27 17 17. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.
Du 27 septembre au 19 octobre, une exposition Henri Rouvière, Être entre deux. Exposition de sculptures et dessins au château de Laverune, musée Hofferbury. C'est du mercredi au dimanche de 15h à 18h. Laverune.fr sur internet, l'entrée est libre.
Du 27 septembre au 10 août, une exposition Jean Amal et le néolithique en Languedoc. Cette exposition présente des pièces significatives de la préhistoire, comme des sépultures mégalithiques et des statues menhirs datant de cette période située entre 6000 et 2000 avant notre ère. C'est à Latte, site archéologique Latara au musée Henri Prat, le tarif 3,50 € et vous avez une réduction avec le pass aglo, c'est à 3 €.
Dimanche 28 septembre, Guinguette, l'heureux événement. Spectacle, guinguette et atelier créatif au bord de la Mosson pour ce nouveau rendez-vous culturel du théâtre Jean Villard avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, la Maison pour tous Léo Lagrange et les associations du quartier. C'est à Montpellier, donc parc Sophie Desmarais, de 11h à 19h, théâtrejeanvillard.montpellier.fr. Pour plus de renseignements, l'entrée est libre.
Mercredi 1er octobre, concert de Rodrigo Amarante. Le Brésilien Rodrigo Amarante décline la saudade brésilienne en folk onirique, un vrai trésor. C'est à Montpellier, au JAM, à 20h30. Les tarifs de 13 à 16 euros.
Les 2 et 3 octobre, le musicien Fethi Tabet et la chorégraphe Anne-Marie Porra s'invitent près de 20 artistes pour un grand spectacle évoquant les couleurs de la Méditerranée à Louanet. C'est à Montpellier, donc au théâtre Jean Villard à 20h. Téléphone 04 67 40 41 39, théâtrejeanvillard.montpellier.fr pour le site internet. Les tarifs de 9 à 15 euros.
Le jeudi 2 octobre, en concert, Arnaud Dumont et Jean-Baptiste Marino pour du flamenco à Montferrier-sur-Lay. C'est à la salle du De Vesou à 20h30, les tarifs de 8 à 10 euros.
Vendredi 3 octobre, concert avec l'Oxmo Puccino Trio. Après 6 albums et 2 victoires de la musique et plusieurs disques d'or, Oxmo Puccino nous plonge dans l'intimité de son hip-hop de chambre accompagné d'un violoncelliste et d'un guitariste. C'est donc à Saint-Jean-de-Védas, chez du Terral à 20h. Téléphone 04 67 82 02 34, chez du Terral.com, tarif de 5 à 15 euros. Passaglo, 10 euros.
Concert de Pedro Cuyate pour les musiques du monde à Saint-Géniès-les-Mourgues. Salle pour tous à 20h30. Tarif de 5 à 7 euros.
Et puis le samedi 4 octobre, autre concert, celui d'Ola Ketal au Ukulélé. C'est à Sussargues, à la salle polyvalente à 20h30. Le site internet les-ig.com, tarif de 5 à 7 euros.
Le 4 octobre, toujours un concert, Jordan Officer, c'est du blues, à Prades-le-Lez, à la salle Jacques Brel à 20h30. Les-ig.com pour le site internet, les tarifs de 9 à 11 euros.
Autre concert, les 4 et 5 octobre, plein feu sur le baroque latino avec l'orchestre cubain Conjunto de Música Antigua Arslonga de Cuba et l'ensemble vocal Clairgaronne. C'est à la cathédrale de Villeneuve-les-Maguelones, samedi 4 à 20h30, dimanche 5 à 16h, dans le cadre du festival Les Voix de Maguelones. Plus d'infos sur ev.clairgaronne.free.fr ou sur compagnon-de-maguelones.org. Les tarifs vont de 15 à 20 euros.
Mercredi 8 octobre, un concert, Mozart l'Opéra Rock, un célèbre spectacle musical musical au style gothique, mis en scène par Olivier Dahan et produit par Dovatia, qui alterne pop-rock et classique de Mozart. C'est au Zénith Sud de Montpellier à 20h30. Les tarifs vont de 35 à 64 euros. Renseignements sur internet montpellier-evans.com.
Et bien évidemment, toutes ces dates et tarifs vous sont donnés sous réserve de modification.
La tribune d'Aglo, conformément au Code général des collectivités locales, Montpellier Aglo réserve un espace d'expression aux groupes politiques constitués du conseil communautaire. On commence avec le groupe majoritaire d'intérêt communal et Max Levita, vice-président de l'agglomération délégué aux finances.
La réforme territoriale souhaitée par le président de la République et le Premier ministre va être mise en place. Elle prévoit la fusion des deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, et la montée en puissance des intercommunalités des régions. Cette réforme rend nécessaire et vital que notre agglomération évolue vers le statut de métropole. La métropole sera seule compétente, sous l'impulsion de l'État et de la région, pour définir et mettre en œuvre la politique de développement du territoire. Elle sera associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan État-région et des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique, de transport, d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche. De plus, cette réforme est décisive pour préserver nos ressources financières par la dotation globale de fonctionnement. Cette évolution doit être consentie, partagée et négociée avec les 31 communes de l'agglomération. Elle ne réussira que si elle est respectueuse de la souveraineté communale et fonctionne comme une coopération d'action publique au service des communes avec les 31 maires de l'agglomération. Cette démarche consentie et négociée se marque par l'adoption d'un pacte de confiance métropolitain est partie intégrante de la constitution de la métropole. Cette évolution sera complétée par la constitution d'un pôle métropolitain avec les communautés de communes et d'agglomérations voisines dans une démarche de coopération volontaire et souple. Montpellier a un rôle à jouer entre Lyon, Marseille, Barcelone et Toulouse. Nous entendons nous donner les moyens de l'assumer. C'est le sens profond de la volonté d'obtenir ce statut de métropole.
Le groupe UMP, Centre et Société Civile, avec Sébastien Avallone.
En 2012, nous avions créé avec Gérard Lannelong l'association Montpellier Métropole 2014. Bien avant la réforme des collectivités de François Hollande, nous savions que le développement de Montpellier passait par la métropolisation. Ainsi, pendant la campagne municipale, nous en avons fait un axe programmatique majeur de la liste Ici c'est Montpellier. Nous prenions une métropole qui dépasserait la communauté d'agglomération pour couvrir la zone d'influence de Montpellier et faire de notre territoire le pôle du sud de la France. Aujourd'hui, nos idées ont fait du chemin. D'ailleurs, le président de notre communauté d'agglomération a même adhéré à l'idée d'une identité économique métropolitaine autour de la santé. Il convient maintenant d'entrer en action et de mettre en place ce grand projet. Vigilants et rigoureux, nous serons acteurs de cette construction tout en restant une opposition ferme lorsque ce sera nécessaire.
Groupe Front National Montpellier fait front avec France Jamais.
Cet été, le Conseil communautaire a entériné le principe de métropolisation. Nous avons voté contre et exigé un référendum local. À l'heure où la fracture entre les élites, les élus et le peuple se creuse, à l'heure où la crise s'amplifie et le climat social se tend, chômage, insécurité, immigration, à l'heure où le peuple réclame plus d'attention, d'écoute et de proximité, on fait éclater les structures les plus pertinentes auxquelles les Français sont les plus attachés, la commune, le département et la nation. Alors pour la rentrée, une première leçon de démocratie s'impose. Dans la conception la plus généralement admise d'un pays libre, c'est par des élections que de telles réformes peuvent s'imposer, non par la force. C'est par le référendum que s'expriment les peuples libres.